Kaush HTP Radio.
C'est l'été, viens de poser HTP.
Sors dehors, tu nous entendras tous crier.
Bonjour tout le quartier.
Oh HTP.
Bien quoi?
HTP Radio.
HTP Création.
Bah dis, c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller,
c'est chelou. T'as capté le délire?
HTP.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause it done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go.
En partant de témoignages réels et locaux, on a voulu faire un pas de côté vis-à-vis de ces clichés étouffants en nous intéressant à la notion de travail. On s'est demandé concrètement comment s'organise le taf à Haute-Pierre. Quelles émotions, quels rapports de force le traverse, ce taf. Cela fait maintenant 2 ans que nous avons commencé à élaborer ensemble une série de podcasts sur les emplois populaires. Nous l'avons nommé « Travail sur le travail ». Et nous, c'est Newell, Bilal, Ali, Léa, Hélène, Sadia, Pauline, Sarah, Louis, Mariam et Marie. Notre but n'est pas de faire une analyse sociologique du monde du travail ou des travailleurs et travailleuses d'Haute-Pierre. Nous cherchons, plutôt, à rendre compte de situations ou de portraits à Haute-Pierre à travers le prisme du taf. Dans cette série, vous entendrez les parcours d'humains humaines, les engagements de groupes auto-organisés et la voix de travailleuses précaires.
Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine. L'été, le reste du temps, sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères. Mon histoire, c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités que la télé déblatère. Et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité.
Le travailleur racisé, il est aussi... Ouais, c'est plein de... Alors déjà, il faut peut-être définir ce que c'est racisé. Mm-hmm. Parce que c'est... Ben, on en a vachement parlé, justement. Il y a 2 semaines, on a fait une rencontre avec Omar Slaouti, un auteur qui a écrit Racisme, avec un S de France. Okay. Et qui, du coup, dans l'assistance, il y avait de tout, quoi. Il y avait plein de gens, puis des gens qui étaient là par hasard, qui étaient venus juste boire un coup, et puis ils se sont retrouvés au milieu d'un débat sur le racisme, donc ils serraient un peu les fesses, tu vois. Puis autant des gens, des militants qui étaient là parce qu'ils avaient... Enfin, c'était prévu, enfin voilà. Et du coup, plusieurs fois, il a expliqué assez bien la différence. Quand on, en tout cas, c'est des mots qui sont beaucoup utilisés par les universitaires et dans le milieu militant, antiraciste et décolonial, blanc et racisé. Dans l'idée que c'est pas parce que t'es français que t'es blanc, par exemple. Mmh. C'est pas parce que ta poil est blanche que t'es blanc. C'est une construction sociale et c'est plutôt est-ce que ta vision du monde, elle est colonialiste ou elle est au contraire, elle est déconstruite et elle est décoloniale? Donc il y a des personnes qui vont être issues de l'immigration qui vont avoir une vision du monde blanche parce qu'ils, par exemple, ils vont c'est un peu l'exemple de ma famille à moi quoi. Ma mère, ma grand-mère, elles sont arrivées en France. Leur but c'était d'être plus blanches que les blancs et d'être absolument intégrées dans la société française et du coup de renier complètement leur culture, leur façon de vivre et de surtout faire en sorte que nous on soit élevés avec cette éducation très française, très
et du cadré, coup
ouais. Enfin très cadré et puis surtout le racisme de pas en parler, il faut surtout pas en parler. Ouais. C'est surtout quelque chose qui ne doit pas. C'est pas un sujet quoi. La politique de manière générale, faut pas que ce soit un sujet non plus. Ouais. Dénigrer parfois avec exagération son propre peuple. Alors que bah toi, en tant qu'enfant, t'aimerais juste découvrir cette culture, juste la découvrir et te faire ta propre idée, en fait. Mais on t'en laisse pas vraiment le... On te laisse pas... On te laisse pas l'espace, quoi. Et du coup, j'ai toute ma vie, j'ai traîné beaucoup plus avec ma famille française qu'avec ma famille capverdienne, par exemple. Et du coup, c'est... Moi, j'ai découvert la culture, le pays, très tard. Vraiment très, très tard, quoi. Et ouais, du coup, le travail racisé, ben... Je sais pas trop comment le définir, mais moi c'est pareil, je l'ai plus vécu au travers de ma mère et de ma grand-mère du coup. Parce que ma grand-mère, elle a émigré en France, elle avait 40 dans les années 70, elle avait 40-45 ans. Ma mère, elle avait 3 ans, quoi, elle était toute petite, donc elle n'a pas vraiment de souvenir de son éducation là-bas, vu qu'elle n'en a pas vraiment eu, enfin elle avait 3 ans. Okay. Et du coup, ma grand-mère, elle a passé sa vie à faire des ménages dans des immeubles, dans des foyers, à être concierge d'immeubles. Enfin, vraiment, c'est vraiment le cliché de l'immigré qui débarque dans les années 70 et qui fait un boulot de merde toute sa life. Genre, elle bossait du lundi au dimanche, enfin, elle avait pas de blouse. Elle partait une semaine par an. Et ma mère a essayé de s'extraire de ça. Elle a commencé à faire des études, elle a fait un CAP en peinture sur porcelaine, elle avait commencé à bosser à Paris dans ce domaine-là, ouais. Pour ensuite essayer de se mettre à son compte, ça marchait pas, bref, elle s'est retrouvée à faire des ménages, ce qu'elle fait, bon là elle travaille plus, mais ce qu'elle a fait pendant 15 ans quoi.
Elle a trimé quoi.
Ouais, et puis elle s'en est rendue compte aussi, c'est un peu sa première prise de conscience, tu vois. Les discussions qu'on avait, je disais, mais tu te rends compte que tu fais le même travail que ta mère, alors que... C'est pas ça que tu veux faire dans ta vie. C'était pas ça à la base, ton projet, quoi. Et comment, est-ce que t'as eu le choix ou pas? Et c'est comment t'as fait, pourquoi t'as fait ce choix-là? Est-ce que... Puis ouais, c'est un questionnement qu'elle a où elle se dit, bah non, en fait, je me rends compte que j'ai pas le choix. Je me rends compte que, ben, le fait que je sois noir fait que, ben, je peux pas travailler où je veux. Je peux pas, quand je demande des postes où je vais être en contact avec un client, par exemple, bah, souvent je suis pas prise, par exemple. Ouais. On me trouve des travails où on va pas me voir. Ouais. Et c'est souvent ça le travail racisé, c'est des emplois où on voit pas les gens. Parce que c'est les gens qui font le ménage avant que les bureaux ils ouvrent, parce que c'est les gens qui nettoient les rues la nuit, parce que c'est, tu vois, c'est du travail, c'est comme les petites fourmis quoi, qui s'activent quand le vrai monde est endormi quoi, tu vois.
T'as pas vraiment échappé au cliché du travail racisé quoi, du coup. Donc tu dis, on a tous un peu galéré et tout.
Moi j'y ai échappé,
ouais.
Mais aussi parce que ouais, moi j'ai pas la même histoire que ma mère. Hein.
Oui.
Moi mon père est blanc, je suis métisse, mais c'est pas écrit non plus en gros sur ma tête quoi. Donc je passe, socialement je passe. Et du coup auprès des gens de manière générale, que ce soit à l'école, que ce soit auprès des profs, on me considère comme une blanche. On me considère pas comme une personne métisse ou comme une personne racisée du tout en fait. Et ça a vachement joué aussi.
L'économie de l'usure et de la fatigue des corps racisés. L'anthropologue David Graeber a parlé de la nécessité de réimaginer la classe ouvrière à partir de ce qu'il appelle la « caring class », la classe sociale dont le travail consiste à prendre soin des autres humains, des plantes et des animaux. Il propose de définir ainsi le travail du care, le travail dont l'objectif est de maintenir ou augmenter la liberté d'une autre personne. Or, plus votre travail sert à aider les autres, moins vous êtes payé pour le faire. Dès lors, il faut, dit-il, repenser la classe ouvrière en mettant les femmes en premier, contrairement à la représentation historique qu'on se fait des ouvriers. Je propose d'aller plus loin, en insistant sur l'économie de l'usure et de la fatigue des corps racisés, le nettoyage comme pratique de soins, l'instrumentalisation de la séparation propre-sale dans la gentrification et la militarisation des villes. Je fais ici référence à l'économie d'usure de corps racialisés, d'épuisement des forces, dans laquelle des individus sont désignés par le capital et l'État comme étant propres à être usés, à être victimes de maladies, de débilitations et handicaps qui, s'ils sont reconnus par l'État après d'âpres luttes, ne servent jamais à remettre en cause la structure même qui les provoque.
Il y a des gens qui galèrent, c'est tous les jours la lutte, hein. Ils n'ont pas besoin d'aller manifester pour lutter, ils se lèvent le matin, ils galèrent. Et ils y vont, quoi. Et ils cherchent des solutions, et ils s'entraident, ils mutualisent, et ils trouvent des solutions. Par exemple, les femmes de ménage de l'hôtel Ibis, là, elles ont gagné leur procès. C'est quand même un truc de ouf, après 2 ans de grève.
On peut pas reprendre le travail, parce que là, on arrête, on monte, on est mort. Voilà, donc, demain, si on arrête comme ça, on monte, là, les enfants vont dire, mais est-ce que vous avez gagné? On va dire qu'on a abandonné.
Non, on n'a pas gagné.
Voilà, on n'a pas gagné, c'est pas un exemple. Donc, il faut qu'on lutte, il faut qu'on soit fort. Et je sais qu'on va gagner. Moi, je sais, c'est pas loin. Voilà, je sais que c'est-à-dire, c'est au bout des doigts, c'est des formalités.
Je m'appelle Keke Raissa Rachel, j'ai 46 ans, je suis gouvernante à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Et depuis le 23 avril 2003. J'ai fait le travail de femme de chambre pendant 15 ans. C'est pas facile parce que c'est par rapport aux cadences déjà, on fait 3 chambres et demie de l'heure. Les femmes de chambre se retrouvent à 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres. Et à force de faire le travail à répétitif, donc ça fait que ça nous rend malades.
On a 17 minutes par chambre, mais c'est peu. Parce que 17 minutes, donc ça veut dire que je dois travailler comme un robot. Parce que je ne peux pas, en 17 minutes, je peux faire quoi? Je ne peux rien faire en 17 minutes. Donc 17 minutes pour nous, c'est une pression incroyable. Donc à la fin, on a les canals carpiens, on a des épaules déboîtées, on a mal au dos, on a mal aux pieds.
Le médecin du travail nous avait mis INAP de ne pas faire assez de chambres, vu nos états de santé, les radios qu'elle a vues, les IRM, les échographies, qui nous interdisaient de faire plus de chambres, donc vu qu'on est malade. Et c'est un métier qui détruit beaucoup et les gens profitent de ce système-là pour nous abîmer le corps. Sylvie et moi, on s'est dit, mais on est obligé de s'imposer et parler et expliquer nos problèmes aux gens. Souvent, ce n'est pas les syndicats qui vont expliquer aux gens nos conditions de travail et ce que nous vivons. Parce que c'est nous qui sommes à l'hôtel, ce n'est pas le syndicat.
La première revendication, c'est être internalisé. De finir avec la sous-traitance, parce qu'avec la sous-traitance, on n'en peut plus. Voilà, si aujourd'hui nous sommes sortis du silence, c'est à cause de la sous-traitance.
Quand on parle, par exemple, du paiement à la chambre, un groupe comme Accor, qui est très connu, plutôt que de supporter lui-même les pratiques crasseuses de paiement à la chambre, d'esclavage, de minoration des droits sociaux, de travail dissimulé, etc., et de prendre y compris le risque juridique d'être poursuivi derrière, eh ben, il le fait. Porté à son sous-traitant.
L'usure des corps, qui concerne évidemment aussi des hommes, mais j'insiste sur la féminisation de l'industrie du nettoyage dans le monde, est inséparable d'une économie qui divise les corps entre ceux qui ont droit à une bonne santé et au repos et ceux dont la santé n'importe pas et qui n'ont pas droit au repos. L'économie de l'épuisement, de la fatigue, de l'usure des corps racisés et genrés est une constante dans les témoignages des femmes travailleuses du nettoyage. Florence Bagou compte parmi les porte-paroles de la grève de janvier 2018, mobilisant des femmes en charge du nettoyage de la gare du Nord. Elle nous apprend qu'elle se lève à 4h du matin, prend son bus à 5h30 pour récupérer un train, puis un autre, afin d'être sur son lieu de travail à 7h du matin. Elle récupère alors son matériel et commence à nettoyer les gares, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ensuite, elle prend un train pour se rendre dans une autre gare. On balaie, on récupère les poubelles qui sont lourdes, sans chariot, c'est à nous de les porter. On fait beaucoup les mêmes gestes. La marche fragilise les chevilles et les genoux. Les poignets aussi sont touchés. Avec ce travail, on a du mal à marcher normalement. On a mal partout. À Maputo, Camarada Albertina Mundlovo doit arriver à son lieu de travail avant que ses employeurs ne commencent à travailler. Craignant d'arriver en retard, elle prend un taxi collectif dans la direction opposée, puis en prend un autre vers la ville. Je paye double, mais si je prenais une route directe, je n'arriverais jamais à l'heure. Je connais des femmes qui ont perdu la vie en se battant pour un poste de domestique. Les employeurs ne veulent rien savoir de ces difficultés. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, sortir tôt le matin, c'est rencontrer ces femmes, somnolant dans les transports ou se pressant à leur travail avant que la ville ne se réveille. Le capitalisme est une économie de déchets, et ces déchets doivent disparaître aux yeux de celles et ceux qui sont en droit de jouir d'une bonne vie. Selon la Banque mondiale, la production mondiale de déchets s'élevait en 2016 à 1,3 milliard de tonnes par an, soit près de 11 millions de tonnes par jour. Tous ces déchets ne sont évidemment pas nettoyés par des femmes, mais aussi par des hommes et des enfants, qui nettoient des montagnes de déchets ménagers. Et les déchets toxiques, les éboueurs, les dalits qui vident les égouts, les Africains qui démantèlent à Accra les déchets de la technologie, les ouvriers qui décarcassent les navires au Bangladesh. Ce que je veux souligner ici, c'est que cette économie de production de déchets est inséparable de la production d'êtres humains fabriqués comme rebuts, comme déchets. Toute une humanité est vouée à effectuer un travail invisible et surexploité pour créer un monde propre à la consommation et à la vie des institutions. À elles et eux, le sale, le pollué, l'eau non potable, les ordures pas ramassées, les plastiques qui envahissent tout, les jardins où les plantes meurent faute d'entretien, les égouts qui ne fonctionnent pas, l'air pollué. Aux autres, la ville propre, les jardins, les fleurs, la déambulation sereine. La ségrégation du monde s'effectue dans une division du propre et du sale, fondée sur une division raciale de l'espace urbain et de l'habitat. Cette division existe aussi dans les pays du Sud. Parmi ces personnes racisées, condamnées au nettoyage du monde bourgeois, je me focalise sur les femmes de ménage dites « techniciennes de surface » en France qui, ici comme ailleurs, mènent des luttes fondamentales. Elles font apparaître le caractère structurel et inégalitaire de l'industrie très féminisée et racisée du nettoyage et sa relation au passé esclavagiste et colonial.
Arrête. HTP Radio, c'est fini pour aujourd'hui.
Tchuss, salut.
Retrouve-nous sur htpradio.org. Allez, ciao.
Bismillah. À bientôt.
HTP.
A plus dans le bus, ma puce.